France Inter.
Le journal, Corinne Audouin, bonjour.
Bonjour Ali, bonjour à tous. Traquer la bactérie dans les cuisines des restaurants, c'est la mission de la police sanitaire. À l'approche des JO, elle va doubler ses contrôles, c'est une information France Inter. Reportage dès le début de ce journal avec des restaurateurs installés près des sites olympiques. Dans l'actualité également, l'usure qui gagne les Ukrainiens frontaliers de la Russie. Nos envoyés spéciaux sont allés dans un village à 5 km de la frontière, presque entièrement détruit par les bombardements. On vous parlera de cette appli pour trouver rapidement des animateurs de centres de loisirs ou de colonies de vacances, l'Uber de l'animation jeunesse. On suivra le nettoyage de la plage de Cailleux-sur-Mer dans le Pas-de-Calais après le passage de la tempête Pierrick. Et puis sur les traces de la peste et du choléra, épidémie, prendre soin du vivant, c'est une exposition à voir au musée des Confluences à Lyon.
Et à 7h45 sur France Inter, faut-il rémunérer les fonctionnaires au mérite ou même autoriser leur licenciement, sujet brûlant mis sur la table par le ministre de la fonction publique cette semaine. Nos débatteurs le passent au crible juste avant le journal de 8h.
France Inter.
Pas question de risquer l'intoxication alimentaire pendant les Jeux Olympiques.
Oui, il en va de la réputation de Paris, capitale de la gastronomie, qui s'apprête à recevoir 16 millions de touristes pour les Jeux Olympiques et Paralympiques. Alors, à 3 mois des festivités, contrôle des cambuses par la nouvelle police sanitaire sous l'égide du ministre de l'Agriculture. Marc Fesneau ira en personne aujourd'hui contrôler un établissement à Saint-Ouen, futur site de la compétition. Prémisse d'une intensification des inspections, c'est une information France Inter. Comment les restaurateurs regardent ces opérations cuisine propre? Mariam El-Kurdi leur a posé la question dans le quartier de Bir Hakeim à Paris, près des sites olympiques.
La sécurité alimentaire autour des sites olympiques, ça passe par 100 000 contrôles prévus dans les restaurants et boulangeries selon le ministère, presque le double par rapport à 2023. L'annonce agace un peu le président du groupement des hôtelleries et restaurations d'Île-de-France.
On est des professionnels, on n'a pas attendu les JO pour bien faire notre travail. Hein.
Mais il faudra bien rester vigilant sur certains produits, insiste aussi Pascal Mousset.
Vous allez trouver rarement de glace proposée en événementiel extérieur, parce que tout simplement c'est impossible à gérer sur certains volumes, et que le risque est trop important. On va éviter de travailler certains produits comme le blanc d'œuf, etc., parce que c'est des produits potentiellement à risque.
Allez, allons-y.
Merci. Le chef cuisinier José Ribeiro anticipe également les risques sanitaires pendant les JO.
Tout ce qui est viande, poisson, produits crus, charcuterie, là on a un risque sanitaire un peu plus important.
Il nous ouvre la cuisine d'un tout nouveau camion-restaurant avec terrasse à 2 pas de la Tour Eiffel.
Hop, tous les produits sont étiquetés, datés du jour de la production. Il y aura plus de monde, donc nous on aura des volumes plus importants. Après il faudra peut-être adapter le matériel.
C'est-à-dire ?
Prévoir peut-être une cellule de refroidissement si on est sur des plus grosses productions. Pouvoir ramener les produits rapidement à une température inférieure à 10 degrés. Toujours pour rester dans les normes d'hygiène en fait.
Il espère dresser 200 tables par jour durant les Jeux Olympiques. L'occasion de faire découvrir son croque-monsieur à la truffe ou encore un croissant aux escargots de Bourgogne.
Voilà, Mariam El-Kurdi, un petit peu de beurre d'escargot pour le petit déjeuner à 7h34. On en sait plus sur les circonstances de la mort de l'adolescente 15 ans tuée d'un coup de couteau mardi à Romans-sur-Isère. Un père et ses 2 fils ont été placés en garde à vue hier soir. L'enquête est désormais ouverte pour assassinat. Le père est soupçonné d'avoir organisé une expédition punitive à l'origine du drame, incitant son fils mineur à se battre avec un autre adolescent. La victime était extérieure au conflit. Il a reçu un coup de couteau en voulant s'interposer.
7h35, 2 ans de guerre en Ukraine et ça tourne maintenant à une guerre d'usure.
Oui, ça se passe à 5 km de la frontière avec la Russie dans l'est de l'Ukraine. Après une série d'incursions sur le territoire russe, il y a quelques jours en rétorsion, Moscou a réduit à l'état de ruine Velika Pissarivka, un village de 4000 habitants avant la guerre où se sont rendus nos envoyés spéciaux Agathe Mahué, Jérémy Tuil et Yachar Fazilov.
Un tapis de décombres dans ce qui reste du couloir de l'école et sous les bris de verre, dans la poussière, les photos des élèves. Au centre de Velika Pissarivka, les Russes ont tout détruit fin mars, en 10 jours seulement. Plus de 500 frappes, un vrai déluge, dit Arthur, le chef de la police.
Ils ont utilisé toute la gamme de leur armement. Les missiles, les bombes planantes, c'était en continu et d'une telle intensité. Même les militaires qui ont vu Bakhmout disent qu'ils n'avaient jamais connu ça.
Des bombes qui semblent s'être acharnées sur la maison de Victor, 60 ans, l'air fatigué de ceux qui ont tout perdu. Un grand choc et des larmes, voilà ce qu'il ressent. Le grenier est tombé dans son salon, les radiaateurs arrachés par le blast, tout est à refaire. La frénésie de frappe a eu lieu juste après une série d'incursions menées à la frontière par des combattants russes alliés à Kiev. Mais Victor se fiche de ses explications et soupire.
Ils nous ont visés juste parce qu'on est ukrainien. Moi je dis à ces cons de Russes, tu as vu où tu as lancé ta bombe. Tu l'as lancé sur des gens paisibles.
Il glisse que ses voisins russes ne sont plus des frères depuis longtemps. Ils ont tout gâché, dit Victor.
Retrouvez sur radiofrance.fr podcast La guerre en Ukraine avec un nouvel épisode chaque jeudi. La tension continue de monter au Proche-Orient autour des menaces de représailles de l'Iran contre Israël. Pour raison de sécurité, les États-Unis restreignent les mouvements de leur personnel diplomatique sur place. Et puis Washington a dépêché un haut responsable militaire pour discuter avec les autorités israéliennes des menaces sécuritaires dans la région. Et puis c'est une affaire qui remonte à 30 ans. La justice argentine désigne l'Iran comme responsable de deux attentats meurtriers. C'était en 92 contre l'ambassade d'Israël à Buenos Aires et en 94 contre la mutuelle israélienne Amia, également dans la capitale argentine. Des attentats contre la communauté juive qui avait fait 114 morts. Dans son jugement, la justice argentine désigne le mouvement chiite Hezbollah comme auteur des attentats et qualifie l'Iran d'état terroriste.
En France, on n'arrête pas le progrès avec une appli pour trouver des animateurs de colonies de vacances.
Car on manque de candidats pour encadrer les enfants en centre de loisirs ou en colo. D'où l'idée du site et de l'application Liberty Jobs, lancée il y a 2 ans. Elle permet aux entreprises ou aux collectivités inscrites de trouver un animateur en quelques clics, le Uber de l'animation jeunesse en quelque sorte. Ajera Mohamed a rencontré le créateur de l'appli, lui-même ancien animateur, à Neuilly-sur-Marne, en Seine-Saint-Denis.
Son site, il a pensé avant tout pour les animateurs jeunesse, souvent eux-mêmes très jeunes et étudiants, rappelle Souleymane Fati, fondateur de Liberty Jobs.
Liberty Jobs leur permet tout simplement de choisir leur mission en fonction de leur planning. Donc des fois, il y en a qui sont libres le lundi, le mardi, et ils vont en mission les jours, ils n'ont pas cours.
Et pour ceux qui ne l'ont pas suivi, une formation BAFA est proposée. Dans la salle, Chérienne, 22 ans, elle pense à s'inscrire sur l'appli.
Par exemple, s'il y a des journées où je ne travaillerai pas ou des journées où je serai disponible, pourquoi pas tout simplement combler les trous et arrondir la paye fin de mois.
La rémunération joue beaucoup.
Les animateurs sont auto-entrepreneurs et donc ils sont à 14 ou 15 euros de l'heure. Et un animateur classique, je crois qu'il doit être à 9 ou 10 euros de l'heure. Voilà.
Au passage, sa société touche une commission entre 5 et 10 euros. Mais le patron de Liberty Jobs se défend de faire de la concurrence, notamment aux communes. Au contraire, certaines sont très intéressées, comme Neuilly-sur-Marne, près de Paris, le maire Zartocht Bakhtiari.
Le point fort, c'est vraiment la réactivité, pour une raison très simple, c'est qu'on a parfois connaissance de l'absence d'un animateur que le matin même. Et face à cette urgence, effectivement, ce dispositif, c'est utile, mais faut quand même pas que ça devienne la règle.
Aujourd'hui, une quinzaine d'entreprises sont inscrites sur Liberty Jobs et 150 animateurs auto-entrepreneurs.
Après la tempête Pierrick, l'heure est au nettoyage à Cailleux-sur-Mer. La plage de cette commune du littoral Picard est méconnaissable. Les planchers envolés, la digue en partie écroulée. Alors à quelques semaines de la saison estivale, c'est la course contre la montre. Reportage de Jeanne Dossé pour France Bleu Picardie.
Michael s'active sur le front de mer avec 7 autres agents.
On nettoie ce que la plage a ramené sur le boulevard de Cailleux. Tout ce qui est galets, sable, avec les vagues, le vent, même les planches qui sont arrivées sur le bord de la route.
La tempête a emporté plus d'un kilomètre des chemins de bois tout juste installés sur la plage. Les planches sont désormais empilées en petits paquets sur les galets, car la priorité c'est de renforcer la digue. Jean-Claude Desanglois, responsable du service technique de Cailleux.
Les services de l'État estiment à peu près 50 000 tonnes de galets à recharger. Ça va être fait théoriquement milieu de semaine prochaine. À partir de là, il faut qu'on réinstalle la plage, donc on renivelle la plage, on réinstalle les planchers. Une fois que les planchers sont réinstallés, on pourra installer les cabines.
Et dans le même temps, Cailleux doit chiffrer les dégâts.
Réparation des planchers, il y a à peu près 300 mètres de fichus. On avait acheté 800 mètres de câbles neufs pour les haut-parleurs de la SNSM. Avec les galets, ça a roulé, donc le câble il est fichu, il faut recommander du câble. On a des bancs qui sont cassés, on est entre 6 et 8 000 euros.
Avec tous ces travaux, les célèbres cabines ne seront pas sur la plage le 1er mai, déplore le maire de Cailleux-sur-Mer, Jean-Paul Lecomte.
Le lancement de la saison, il va prendre un peu de retard, mais ça n'empêche que courant mai, je pense qu'on arrivera quand même à avoir la possibilité d'installer nos cabines. On fera tout pour.
Autre chantier à venir, la route blanche, complètement fermée jusqu'à nouvel ordre. La voie cyclable est très dégradée sur environ 200 mètres.
Battus mais soulagés, les footballeurs de l'OM se sont inclinés 2-1 hier soir face au Benfica Lisbonne en quart de finale aller de la Ligue Europa. Soulagés car ça aurait pu être pire. Grâce au but d'Aubameyang, l'OM garde ses chances de qualification pour les demi-finales. Et puis pour terminer, une enquête historique sur l'origine des épidémies. C'est le parcours que propose le musée des Confluences à Lyon. Épidémie, prendre soin du vivant. L'exposition ouvre aujourd'hui. Elle remonte bien avant le Covid-19, au temps de la peste et du choléra. Visite guidée, signée Mathilde Imberti.
Ce sont de drôles de sculptures en verre qui nous accueillent, des microbes stylisés. Car le musée des Confluences, pour nous plonger dans ce thème potentiellement ardu des épidémies, mêle infographies, vidéos, textes et objets. Mathilde Gallet-Keller est anthropologue des sciences, de métier, chef de projet sur cette exposition.
C'est montrer l'appareil photographique inventé par Émile Roux à la fin du 19e siècle, un collaborateur de Louis Pasteur, qui va réussir à produire des images des mondes microscopiques à la manière du musée des Confluences. On a aussi voulu mettre des collections ethnographiques, que ce soit des statuettes de divinités dédiées à la variole par exemple.
On chemine guidé par des fioles éclairées sur un mode chronologique, une enquête historique et épidémiologique qui démarre avec la peste justinienne.
Au 6e siècle, l'empereur Justinien va favoriser le commerce du blé. Il va aussi créer malheureusement les conditions pour la propagation d'une grande épidémie de peste qui va contribuer in fine à la chute de l'Empire byzantin.
Cette épidémie décryptée dans cette exposition qui se clôt sur les agents pathogènes d'origine animale et le lien avec le vivant.
Finalement, cette idée que prendre soin du vivant, c'est ce qui va nous permettre d'anticiper au mieux les prochaines épidémies et de les combattre.
L'exposition avait été envisagée dès 2019, avant la pandémie de Covid. Elle arrive à point nommé en ce printemps 2024. Lyon, Mathilde Imberti, France Inter.
Épidémie, prendre soin du vivant, c'est au musée des Confluences à Lyon jusqu'en février prochain.
C'était le journal de Corinne Audouin. À suivre, de l'eau au menu de l'édito politique.